Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite.
Donc, on est de retour au podcast Commerce Élite. Et comme à l'habitude, on a un expert de chez Pure Commerce avec nous. On a Corentin Rodriguez qui vient pour la deuxième fois sur le podcast nous parler de email marketing spécifiquement sur Klaviyo. Corentin, comment ça va aujourd'hui?
Et ça va très bien, Antoine. Ça va très, très bien. Et toi, comment vas-tu?
Ça va bien. Et j'espère que nos auditeurs également vont bien. Corentin, on a fait un podcast la dernière fois qu'on avait encore des points à discuter avec notre audience.
C'est ça. Exactement.
Peut-être que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait discuté et par la suite, on pourra regarder comment finalement on est capable de bien utiliser notre base email.
Exactement. En fait, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait voulu se dire, OK, on a énormément de données en tant que business en ligne qui envoyons quotidiennement, de manière hebdomadaire ou mensuelle, un tas d'emails à nos clients. Et aujourd'hui, comment on peut comprendre nos performances? Comment on peut analyser justement à quel point on est performant avec notre auditoire, à quel point ils sont réceptifs à notre message et là où il y a les points d'amélioration et aussi là où le bas blesse un petit peu sur nos performances. Donc, on avait adopté une approche en 7 points pour pouvoir analyser, caractériser et adapter des stratégies en réponse à ces données-là. Donc, globalement et de manière très rapide, c'était dans un premier temps de recueillir la donnée. Donc, aujourd'hui, on a de la chance d'utiliser des outils qui nous permettent de très facilement et très rapidement obtenir les données nécessaires, obtenir des données clés qu'auparavant, on avait un peu de mal à obtenir, qui auparavant étaient plus compliquées à recueillir. Aujourd'hui, ces données-là sont très facilement téléchargeables depuis vos SaaS justement d'envoi d'emailing. Une fois que vous récupérez ces informations, c'est comment les nettoyer, comment faire en sorte de laisser apparaître exclusivement les données qui vous intéressent le plus, comment faire en sorte de les représenter, de les afficher pour leur donner justement cette valeur et de leur donner un sens pour ensuite les analyser. Donc, les analyser, c'est-à-dire faire ressortir ces premiers chiffres clés qui vous permettent de dire, OK, cette campagne-là, elle a tel taux d'ouverture, pourquoi? Comment c'est essayer de distinguer des patterns? Qu'est-ce qui fait qu'elle a mieux performé qu'une autre tandis qu'en fait le sujet était sensiblement le même? Où est-ce que, on sait que le diable se cache dans les détails, mais justement ici, où est-ce qu'il s'est caché? Qu'est-ce qui a fait la différence entre cette campagne A et cette campagne B? Parce que là, actuellement, je ne saurais pas trop dire où est-ce qu'on peut trouver justement cet élément différenciateur. Là, c'est tout l'intérêt, c'est commencer à regarder en détail, que ce soit justement dans le type d'objet, que ce soit dans la taille de l'objet, que ce soit le type de contenu qui a été transmis, la qualité de l'offre. Est-ce que aussi, en termes de design, à quel moment vous avez optimisé justement le design? Est-ce que vous avez plus mis en avant votre produit, plus mis en avant votre offre? Le nombre de CTA, compris aussi dans le nombre de mails. Bref, toutes ces analyses-là font partie justement de cette démarche en 7 points. Le cinquième point, c'est ici, une fois qu'on a toutes ces données, de les schématiser. Parce que c'est important, notamment quand vous envoyez 100, 200, peut-être 300 pour les plus gros comptes qui nous suivent mails par an, de se dire, OK, ces informations-là sur un tableau, ça peut être assez compliqué aussi à représenter. J'aimerais bien avoir des schémas, j'aimerais bien avoir des graphiques qui me permettent de distinguer ces tendances-là. Et donc, ces graphiques vont être très importants de manière aussi à avoir une démarche collaborative avec votre équipe pour pouvoir, en fait, témoigner des performances selon certains schémas qui sont vraiment importants sur notamment, par exemple, l'évolution et l'impact, par exemple, du jour de la semaine selon le taux d'ouverture de vos emails. L'heure, comme on l'avait vu, on s'était rendu compte que nous, sur certains de nos clients, envoyer des emails à 4h du matin faisait partie des meilleures actions qui avaient été réalisées sur l'année. Ce qui était assez incroyable, tandis que d'autres, c'était quasi exclusivement, mais quand je dis exclusivement, après 19h. C'est-à-dire que on avait vraiment statistiquement quasiment 90% des campagnes qui avaient été envoyées avant 19-20h qui étaient vraiment dans la ligne basse des campagnes les moins performantes, tandis que tous ceux qui avaient été envoyés dans le créneau 20-22h en fait avaient une meilleure réceptivité auprès de l'auditoire, parce qu'en fait, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus, leur auditoire était composé de personnes beaucoup plus réceptives sur ces créneaux-là. Donc une fois que voilà, on a ces données, une fois qu'on commence à savoir les analyser, une fois qu'on a su les schématiser, qu'on commence à les comprendre, on arrive à distinguer des petits patterns. On se dit, OK, donc là, ça veut dire que moi, dès lors que je fais des mails avec un objet extrêmement court, par exemple, et impactant, où je le fais apparaître quasi systématiquement, je sais pas, le logo du dollar, quelque chose de, voilà, vraiment des petits détails comme ça, je vois qu'on a un très haut taux d'ouverture. Dès lors que je vois que je mets plus de 4 CTA dans mon mail, on voit qu'on a un taux de clic supérieur à 1%. Lorsque les images, par exemple, représentent le produit, alors que, en comparaison, lorsqu'elles représentent le produit et un humain qui porte, par exemple, ce produit-là, ce vêtement, on voit qu'on a une explosion des taux ou justement une diminution. Pour revenir là-dessus et reprendre un des exemples, on s'est rendu compte sur un e-commerce de chaussures. Et là, c'était vraiment, je pense, un des points les plus marquants, que sur l'intégralité des 20 campagnes les plus performantes de l'année, on ne voyait jamais une seule fois une chaussure portée, donc avec un pied ou une jambe. Tandis qu'à l'inverse, sur plus de 95% des 20 campagnes les moins performantes de l'année, quasi à chaque fois, l'image principale lorsqu'on ouvre le mail était un pied ou une jambe qui portait la chaussure. Donc les chaussures portées, les designs, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une corrélation entre ces images-là et les performances générées par ces emails. Et donc, on en est convenu à se dire, mais pour ce compte-là, on mettra plus de jambes ou de pieds en image d'ouverture justement de ces emails-là. Et une fois qu'on avait toutes ces infos, c'était de se dire, OK, maintenant qu'on sait quelle stratégie fonctionne, maintenant qu'on sait à quelle heure mon auditoire fonctionne, avec quel type d'objet ils sont le plus réactifs, avec quel type de CTA ils semblent le plus aussi réactifs également, on va planifier tout ça. On va planifier tout ça sur un document sur lequel on peut collaborer avec mon équipe, ou même si jamais vous êtes tout seul à gérer la partie emailing, et surtout maintenant de planifier de manière mensuelle ou trimestrielle toutes vos campagnes. Et là, c'est vraiment important parce que ça vous permet d'identifier les concepts clés, les offres associées, les segments en avance que vous voulez faire, parce que combien de fois, et je sais que ceux qui écoutent ces campagnes-là, qui écoutent par exemple ce podcast-là et qui gèrent des campagnes, sont déjà retrouvés face à cette situation, c'est lorsque vous voyez planifier la campagne et que vous dites « Ah, je l'aurais bien envoyé à ce segment-là, bon, je le ferai la prochaine fois, tant pis ». Non, planifiez, faites vos segments, regardez en avance quels sont les segments justement à bien cibler, ceux qui justement auront une meilleure réactivité, et vous planifiez ça voilà sur 90 jours. Et là, je peux vous assurer qu'en termes de résultats, vous allez vous assurer une régularité déjà, ce qui est extrêmement important, et surtout de très bonnes performances.
Intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres points qu'on avait discuté la dernière fois avant qu'on passe à un prochain sujet que je suis convaincu, notre audience a hâte d'entendre? Ouais.
La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait discuté? C'était aussi de faire attention lorsque vous analysez les performances de vos emails, de faire attention entre les valeurs absolues et relatives. C'est-à-dire que forcément, si vous envoyez à l'intégralité de votre base de données une campagne, vous allez générer des revenus à court terme. C'est toujours pareil parce que ces revenus sont relatifs, dans le sens où si on prend les valeurs moyennes de taux d'ouverture, de taux de clic ou de revenus par destinataire, ces campagnes-là seront bien moins performantes que les campagnes qui vont être, et on revient sur l'avantage de la segmentation, très ciblées et qui répondent à justement des segments de personnes qui sont engagées avec votre marque, qui sont réceptives à votre discours et qui ont prouvé aussi être fidèles à vos contenus sur les 7, 15, 30, voire 90 derniers jours. Mais qu'au-delà, vous allez en fait envoyer un petit peu, vous allez toquer à la porte de personnes qui potentiellement vous avez oublié. Donc, vous allez certes générer un peu plus de revenus à court terme, mais à long terme, vous allez vous rendre compte que vous allez perdre en efficacité et en valeur moyenne de revenus par destinataire, ce qui est le point le plus important aujourd'hui sur votre base email.
Et là, j'aimerais parler d'un point avec toi aujourd'hui que je pense qu'il va tellement être important pour les gens qui nous écoutent, c'est au final, on a cette base de Corentin. On a cette base emailing de 10, 20, 30, 40, 50 000 personnes, 2 millions de personnes, peu importe c'est quoi la grosseur de notre organisation, comment qu'on en prend soin? Comment là, on peut s'assurer que cette liste-là reste en santé et s'améliore à travers le temps?
Là, c'est vraiment un sujet vraiment important. On s'en est rendu compte avec un témoignage client, quoi, un témoignage d'un client qu'on vous montrera juste après, une situation vraiment qu'on a réussi à rattraper, mais qui aurait pu être assez
désastreuse
à court, moyen, voire long terme également. Et c'est vrai que maintenant qu'on a toutes ces stratégies, maintenant que vous passez à chaque fois donc tout ce temps-là à planifier la réussite de votre stratégie emailing, il faut savoir que cette réussite-là dépend de la manière dont votre auditoire va ouvrir et consulter vos mails. Donc votre base de données, c'est votre aujourd'hui atout le plus précieux. Et en fait, il faut savoir que la qualité de votre base de données, elle est aussi cruciale que en fait la pertinence de vos messages ou de votre stratégie. Et quelque chose qui est extrêmement important à faire de manière hebdomadaire, c'est de toujours nettoyer sa base de données mail. C'est-à-dire que une base de données qui est propre et qui est constamment soignée, c'est vraiment une base qui est synonyme de délivrabilité optimale. Donc, tous vos fournisseurs de messagerie, que ce soit donc Google, Yahoo, Outlook, ils jugent votre légitimité sur plusieurs points. Et vraiment, avoir une base de données saine de clients qui ouvrent et consultent vos emails, en fait, ça va vous maintenir votre excellente réputation auprès de ces fournisseurs de messagerie et va vous assurer donc une meilleure délivrabilité. Et pour pouvoir nettoyer cette base-là, il y a plusieurs possibilités. Donc, le premier, c'est déjà une base mailing, c'est une base de personnes qui consultent vos mails, idéalement. Donc, pour identifier qui consulte vos mails, qui ne les consulte pas, pour éviter, en fait, d'aller toquer à la porte de personnes qui ne vous ouvrira jamais, il faut que vous arriviez à identifier tous vos profils qui ne sont pas engagés. Donc, pour ça, aujourd'hui, avec des outils comme Klaviyo, notamment, c'est extrêmement simple de créer des segments que vous allez exclure de chaque campagne. Et ces segments-là, en fait, ils vont capturer tous les clients qui reçoivent vos emails, donc qui les reçoivent, mais qui ne les ouvrent pas et qui ne cliquent pas dessus. Donc, vous n'allez pas cibler les personnes qui n'ont pas consulté ou cliqué sur un seul email. Non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez consulter l'inactivité de certains clients sur, par exemple, 180 jours. Au début, vous allez prendre assez large. Et ensuite, donc, de voir sur 5, 10 emails, combien de personnes n'ont pas consulté votre email ou n'ont pas cliqué dessus. De cette manière-là, vous allez avoir ce qu'on appelle des profils de personnes inengagées que vous allez pouvoir exclure des premières campagnes pour déjà à court terme voir la différence dans votre taux d'ouverture et votre taux de clic sur justement ces performances-là. Dans un second temps, il y a quelque chose aussi qui est important de prendre en compte, c'est que des adresses mail, elles sont pas éternelles. Les adresses mail, elles changent. Les adresses mail se suppriment. Les adresses mail, en fait, selon des noms de domaines qui disparaissent également. Donc, c'est
changements d'emploi.
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, lorsque vous envoyez un mail à une adresse qui n'existe plus, on dit que ce mail rebondit, ce qu'on appelle un soft bounce. C'est important ici. Donc, c'est pas extrêmement grave si vous envoyez à certaines de ces adresses des mails. Vous n'allez pas, en fait, finir sur liste noire. Mais en fait, vous allez perdre de la pertinence sur, en fait, les valeurs et les performances de vos campagnes. Et donc, ici, très simple également, de créer un segment où vous allez identifier toutes les personnes depuis, du moment où ils sont arrivés dans votre liste jusqu'à aujourd'hui. Si jamais ils ont rebondi plus de 4 fois sur 4 campagnes, donc vous allez les exclure intégralement de toutes vos futures campagnes. Comme ça, vous êtes certain que vos mails ne seront pas envoyés à des personnes qui, n'existent plus. Pourquoi 4 fois? C'est parce qu'en fait, c'est important des fois de se dire que une adresse peut être en pause. Il peut y avoir aussi un problème, par exemple, d'adresse mail pleine. C'est-à-dire que lorsqu'une adresse mail est pleine, lorsqu'une adresse mail ne peut plus recevoir de mail, en fait, le mail nous est renvoyé en disant la boîte mail de votre interlocuteur est remplie, etc. Donc, pour nous, ça va être une alerte comme quoi il y a eu un soft bounce.
Bien sûr.
Mais si jamais il n'y a pas de récurrence, ça peut être un problème qui est ponctuel. En le mettant 4 fois, sachant que c'est pas quelque chose, en fait, à court terme qui est très impactant, on sait qu'on peut attendre 2, 3, 4 fois avant de pouvoir justement les exclure. Mais une fois qu'on arrive à 4 fois, on sait que du coup, dans ce cas-là, c'est plus une coïncidence, c'est que ces comptes-là n'existent définitivement plus, donc on les enlève.
Intéressant. Et là, tu as le fameux cas qu'on parlait plus tôt, qui a été quasiment catastrophique. Donne un peu de contexte à l'audience, parce qu'il faut absolument que les gens qui nous écoutent aient faire ces vérifications-là. Ça peut être dramatique sinon.
Alors, là, c'était une situation assez compliquée, parce que c'était donc un e-commerce qui vend des produits animaliers, pour lequel on a réalisé un audit avant de récupérer le compte. Donc, tout semblait à première vue à peu près bien sur les dernières semaines, etc. Mais quand on est rentré, qu'on a fait une analyse globale du compte, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 40 000 adresses donc dans leur base qui comptait déjà plus de 300, 400 000 clients. Donc, c'était quasiment 10% des adresses qui, en fait, étaient des adresses qui avaient été injectées par des bots sur leur formulaire de submission, donc d'adresse mail pour sur la newsletter ou autre sur leur site web. Et donc, en fait, ils avaient été infectés par ces bots-là qui étaient arrivés sur le site, qui avaient pré-rempli donc toutes les cases avec les prénoms, le nom, l'email, avec des mails qui provenaient de bases d'emails volées. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de personnes qui ne savaient même pas que leur mail avait été volé, donc des personnes qui étaient actives. Donc, c'est comme si, par exemple, vous recevez demain un mail, donc d'un e-commerce dont vous n'avez jamais entendu parler, et c'est là la particularité, c'est là où on voit en fait à quel point ça peut être vicieux, c'est que ces bots-là, quand ils vont venir remplir les formulaires, ils vont venir changer le prénom et le nom. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer, par exemple, le nom par un lien de redirection qui va rediriger vers donc un site qui peut venir voler vos informations, qui peut venir pirater vos informations bancaires, ou par exemple marquer des informations comme venez récupérer, un bitcoin à cette adresse qui vous manque. Donc, ils peuvent marquer des phrases entières. Et donc, quand vous, vous allez envoyer vos campagnes à votre liste de diffusion, si justement, en plus, cette liste-là n'est pas nettoyée et que vous n'avez pas fait justement ce travail de préparation-là, vous allez donc envoyer à ces personnes-là un mail, donc votre campagne habituelle. Sauf qu'en fait, les personnes derrière, vous comme moi, vous allez recevoir un mail comme par exemple « Bonjour ». Ça peut être « Vous avez reçu un Bitcoin à cette adresse » et en dessous, vous avez tout le contenu de votre campagne. Et c'est juste en fait ces balises-là qui ont été remplacées et qui ont complètement en fait dégradé la santé de leur base mail. Et les conséquences, elles sont dramatiques. Parce que pour faire un point de vue global, lorsque vous êtes confronté à ce cas de figure-là, c'est pas simplement le taux d'ouverture qui baisse. Non, il y a le taux d'ouverture, il y a le taux de clic qui donc là vraiment est catastrophique parce que vous êtes certain que personne ne cliquera sur votre lien. Vous avez une augmentation des mails non délivrés qui sont énormes parce qu'en fait, c'est des bases de données qui des fois en plus sont même plus à jour. Donc vous allez envoyer aussi à cette nouvelle base de données volée des mails qui vont rebondir, des mails qui vont pas être adressés ou même envoyer des mails sur des adresses qui sont aussi blacklistées. Donc en fait, vous allez avoir beaucoup d'emails marqués comme spam et vous allez avoir surtout, et ça c'est le pire, une baisse considérable de votre réputation auprès de tous les fournisseurs de messagerie et avec comme pire des choses, et c'est là ce qui était le cas, l'inscription sur ce qu'on appelle le domaine des listes noires. Et ça, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Parce qu'une fois que vous êtes inscrit dessus, le seul moyen de pouvoir s'y échapper, il y a quand même des possibilités, c'est de remplir des formulaires de radiation auprès de ces entités qui proposent ces listes noires qui sont proposées donc à Google, Yahoo, etc. et sur lesquelles ils se basent pour pouvoir exclure certains domaines qui sont considérés comme pirates ou non.
Et là, bon, il y a cet enjeu-là qui s'est déroulé. Comment qu'on est sorti de cet enjeu-là? Parce que alors, là, je sais que ça va mieux aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc là, c'est bon. En fait, tout a été rétabli assez vite. Donc ça, c'était vraiment le plus important, c'est de pouvoir vraiment remettre la main le plus rapidement dessus sur les performances. Donc, sachant que c'était les prénoms et les noms qui avaient été corrompus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi donc dans la liste, on a exporté avec certains mots-clés donc tous ces nouveaux contacts qui avaient été ajoutés en plus par plusieurs batchs, donc à différentes dates. Enfin, c'était vraiment assez compliqué à identifier. Donc, on a exporté l'intégralité de la base, on a vraiment fait un tri extrêmement précis de toutes ces données. On a sorti ces données-là, donc on avait une base de données des mails entre guillemets donc scam, et on a utilisé cette base avec la VIO. C'est possible, vous pouvez en fait supprimer des profils de votre base mail en important en fait une liste de profils. Donc on a importé une liste et comme ça permet de dire si jamais dans votre liste vous rencontrez ces mêmes mails, vous le supprimez. Et donc en faisant ça, on a pu supprimer l'intégralité de ces mails. Donc bon, forcément on a perdu 10% de la base de données, mais c'était 10% qu'il fallait absolument perdre.
Rien, bien sûr.
Voilà. Et donc voilà, en les isolant et en les supprimant, on était sûr de repartir avec des bases saines. Ensuite, c'était donc en fait ce client-là avant n'utilisait pas Klaviyo et ils utilisaient un autre formulaire donc pour pouvoir transmettre leur newsletter, etc. Et ce qui est possible de faire, en fait, si jamais vous n'utilisez pas Klaviyo, c'est d'utiliser des formulaires comme ReCAPTCHA. Donc, c'est proposé par Google. Vous pouvez utiliser des petits outils comme Bot Poison qui permettent de vous éviter, justement, de se vous faire empoisonner votre base de données. Et ensuite, donc, pour ce qui est du retour à la normale, une fois que nous, on est intervenu dessus, c'est pas miracle. C'est-à-dire que ça se fait pas en quelques heures, en quelques jours ou, en quelques semaines même. Il faut bien prendre au moins un mois, deux mois, le temps que vous puissiez renvoyer des campagnes qui soient consultées, renvoyer des campagnes qui soient ouvertes, cliquées et surtout qui renvoyer des campagnes sur lesquelles il y a de la transaction, sur lesquelles il y a vraiment de la conversion. Et donc, pour pouvoir réaugmenter la réputabilité de ce compte-là, on a réadapté donc une stratégie au fur et à mesure où là, vraiment, on était extrêmement, extrêmement précis sur la segmentation des personnes engagées. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'abord envoyé un très petit segment de cette base de données de 200 000 personnes ou 200 ou 300 000, vraiment un tout petit segment des plus engagés et on continuait à envoyer aux plus engagés parce qu'on savait qu'ils allaient ouvrir et consulter les mails. Mmh. Et en faisant ça, on a redoré le blason un petit peu de ce compte-là. Et en parallèle, on a contacté donc les fournisseurs de listes noires pour leur demander une radiation du nom de domaine pour éviter qu'en fait le nom de domaine de ce e-commerce soit associé justement à du phishing ou à justement des processus malveillants. Donc là, c'est vrai, vous n'avez pas grand-chose à faire si jamais ça vous arrive. C'est-à-dire que si jamais ça vous arrive, déjà C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez en amont des fois de préparation. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est là où on veut appuyer. Et à la fin, là, on vous donnera en fait un résumé vraiment des meilleures pratiques pour être certain que ça ne vous arrive pas. Et si jamais ça vous arrive, supprimez l'intégralité de ces profils. Reprenez votre formulaire, protégez-le. Contactez tous les fournisseurs de liste Nord pour éviter justement qu'ils transmettent les coordonnées de votre nom de domaine auprès des fournisseurs de messagerie comme malveillants. Et ensuite, reprenez une stratégie de communication sur un segment très engagé pour être sûr de reprendre des performances.
Et bon, te parler de meilleures pratiques. Si on avait à terminer le podcast aujourd'hui avec des bonnes pratiques à mettre en place pour notre stratégie mailing, peux-tu nous faire un résumé rapidement, Corentin?
Ouais. Donc, si jamais vous utilisez pas Klaviyo, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ReCAPTCHA. Donc ça, c'est fourni par Google. C'est ce qui vous permet, en fait, d'éviter que des bots puissent remplir votre formulaire de manière automatique et viennent vous empoisonner votre liste de diffusion. Si vous utilisez Klaviyo, il y a quelque chose qui existe et qui est très intéressant à mettre en place, ce qu'on appelle un honeypot, donc un pot de miel en français. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est un champ invisible qui est dans votre formulaire. En fait, ce champ invisible-là, il est impossible d'être rempli par des humains parce qu'en fait, il est invisible. Sauf que les bots, ils sont extrêmement bêtes et par défaut, ils remplissent l'intégralité des cases qui leur est attribuée. Donc, vous savez que si dans votre formulaire, cette case-là était remplie, il y a 100% de chances que ce soit un bot qui ait rempli ce formulaire. Et donc, avec ça, c'est un peu le cheat code ultime contre les bots. C'est que vous êtes certain que si quelqu'un a rempli ce formulaire-là, ça veut dire que du coup, c'était un bot. Ensuite, dans les meilleures pratiques, quelque chose qui est extrêmement important pour prendre soin de votre base de données et être certain que vous limitez aussi votre taux de désabonnement et vos taux de mise en spam, mettez un lien de désabonnement. C'est vraiment la chose la plus basique. Klaviyo le réclame par défaut, mais certains trouvent toujours un moyen de, par exemple, changer la couleur, de mettre une police grise sur un fond gris. Vraiment, laissez afficher ce lien de désabonnement parce que plus vos liens de désabonnement sont visibles, plus vous limitez les désabonnements. Donc, ça paraît un petit peu cocasse de dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est plus vos liens sont visibles, plus ça apporte de la crédibilité à votre message, plus vous êtes sûr que vous allez réduire votre taux de mise en spam. Parce qu'il n'y a rien de pire pour vous, si vous avez une base de données saine, d'être signalé comme spam. C'est une des métriques les plus prises en compte par les fournisseurs de messagerie pour justement réduire votre délivrabilité et vous envoyer dans l'onglet promotion ou même pire en spam. Ensuite, ce qu'on recommande et ce que nous on fait de manière systématique sur les bases, notamment quand on commence à avoir des bases de mails volumineuses, c'est de faire un check-up manuel hebdomadaire. Parce que on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'est jamais certain qu'il n'y ait pas eu de nouvelles pratiques qui aient pu apparaître et qui ont pu vraiment, ne serait-ce que d'un coup d'œil, on peut se rendre compte en fait de quelque chose qui ne va pas sur une liste en regardant sur les 7 derniers jours les nouveaux entrants. Si jamais il y a vraiment une croissance qui est un peu inexpliquée ou si jamais il y a des provenances qui sont un petit peu particulières, voilà. Vous verrez avec votre œil, vous verrez en fait s'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, ce qu'on vous conseille, c'est aussi de faire des audits de sécurité. Vraiment, ça, c'est extrêmement basique, mais c'est vraiment important de voir quelle information votre site récolte. Quelle information peut être transmise à votre site et quelles informations peut sur votre back-end, peut vous être envoyée. Et de cette manière-là, vous allez savoir exactement, en fait, vos portes d'entrée vers vos processus internes qui peut justement impacter tous ces processus-là. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, la segmentation, elle est vraiment importante pour isoler les personnes qui interagissent plus avec votre marque. Il faut vraiment pas hésiter à les sortir. Ça peut être un crève-cœur et moi je le sais parce que c'est quelque chose vraiment que on veut vouloir justement les remobiliser et dire allez revenez par chez nous, revenez nous voir. Mais si jamais ces personnes-là ont prouvé à travers le temps qu'elles ne sont vraiment plus intéressées sur vos campagnes régulières, on s'obstine pas, on les sort. Ça veut pas dire que vous n'allez pas retoquer chez eux de temps en temps à l'année avec des offres spécifiques, mais dans vos campagnes régulières, sortez-les, ça vous fera le plus grand bien et ça augmentera drastiquement vos performances.
Et là, je voyais dans tes notes, on termine avec un mix toolbox. Peut-être que tu nous en parles un petit peu plus avant qu'on termine le podcast.
Ouais, pour terminer là-dessus, il y a un site qui est très intéressant et qu'on vous mettra en description là du podcast. C'est donc l'outil MX Toolbox. Donc MX Toolbox, qu'est-ce qui vous permet de faire? Ça vous permet de vous faire un check complet de votre nom de domaine et de toutes les erreurs que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau de votre délivrabilité, au niveau de la santé et de la sécurité de votre nom de domaine, de votre site web. En fait, au niveau de tout ce qui touche à votre .com, .fr, .ca, vous allez pouvoir avoir en quelques clics une overview complète. Et cet outil-là, c'est vraiment une pépite. Il faut absolument le consulter quasi mensuellement de manière à avoir en fait un retour de manière continue sur les potentiels points qui peuvent être améliorés. Et c'est là où vous allez voir si, par exemple, en termes de délivrabilité, ça sera aussi ça le sujet d'un autre podcast, si votre SPF, si votre DKIM et si votre démarque sont vraiment bien paramétrés, parce que ça aussi, ça fait partie justement des notions clés.
Voilà. Quentin Rodriguez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours intéressant de parler avec toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercial.